Vivre FM, podcast.
Recherche et partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Bonjour, recherche et partage, c'est dans un instant sur Vivre FM et c'est une émission proposée par l'OCIRP, vous le savez maintenant, et réalisée en partenariat avec la FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap. Aujourd'hui, cap sur un projet de recherche dont on vous a déjà parlé sur l'antenne, mais il y a des nouveautés parce que le projet de recherche, la phase 1 en tout cas, se termine, on va le voir. C'est ma vie, je la choisis, c'est une recherche dont le but était d'aider les personnes porteuses de trisomie 21 et les personnes déficientes intellectuelles à formuler des choix de vie pour les aider à reprendre un petit peu en main leur destin. Alors après des mois, voire des années de recherche, quelles avancées? Est-ce qu'il y en a? Je suis sûre que nos invités vont nous dire ça dans un instant. En tout cas, restez à l'écoute de Recherche et Partage et on démarre tout de suite sur Vivre FM. Bonjour et bienvenue à l'écoute de Recherche et Partage. Avec moi autour des micros aujourd'hui, Jean-Paul Champeau, qui est directeur de Trisomie 21. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour.
Et Robin Bastien, chercheur à l'Université de Mons en Belgique, au service d'orthopédagogie clinique. Bonjour Robin.
Bonjour.
Merci d'avoir fait le déplacement peut-être pour être là aujourd'hui avec nous.
Je vous en prie.
On va parler d'un projet de recherche qui s'appelle « C'est ma vie, je la choisis », un projet dont on a déjà parlé quand il a débuté, enfin il avait déjà bien commencé, hein, parce que c'était un projet, c'était une réponse à l'appel au projet 2012 de la FIRA. Donc le projet a avancé, il s'est même achevé, même si on va le voir, il va continuer de vivre. On va démarrer peut-être avec vous, Jean-Paul. Nos auditeurs sont souvent familiers avec les personnes porteuses de trisomie 21 ou avec la déficience intellectuelle. Mais voilà, il faut peut-être en redire un mot. À quel public, enfin pour quel public on a pensé cette recherche dont on va parler dans un instant?
On a pensé cette recherche pour les personnes avec trisomie 21. Bien sûr, puisque c'est notre public, mais on l'a pensé cette recherche pour l'ensemble du public. On a voulu mettre sur Internet, en fait, puisque c'est un outil qui sera utilisable par tous, des outils pour aider à les personnes à choisir leur projet, mais aussi à décider. Un outil papier, qui est un outil qui sera téléchargeable, et un outil numérique, donc un outil Internet, pour des personnes non lectrices, qu'elles soient trisomiques 21 ou pas. Enfin, tout le monde aura accès, puisque ça sera en ligne, tout le monde aura accès à ces outils-là. Ce sont des outils pour aider les personnes à décider qu'elles soient porteuses de trisomie 21 ou non.
Et alors, mais justement, ces personnes trisomique 21 ou déficient intellectuel, pourquoi on a ce besoin d'outils dont on va parler dans un instant? Est-ce que leur parole n'est pas prise en compte? C'est des personnes qu'on n'écoute pas, c'est des personnes qu'on écoute, mais finalement dont on prend peu en compte les souhaits. C'est-à-dire, si à la base vous avez eu envie de partir sur ce projet de recherche, c'est qu'il y avait un manque, c'est qu'il y avait au minimum un constat qui était qu'on ne prenait peut-être pas en compte leur parole, qu'on ne les laissait pas s'autodéterminer, choisir leur vie justement.
On passe d'une époque où effectivement on choisissait pour les personnes, alors qui ont, c'est les parents ou les professionnels, ou les parents et les professionnels, bien souvent leur parole était interprétée, c'est-à-dire des gens dont c'est la profession d'interpréter la parole des autres. Là, on a voulu se doter d'un outil qui est un outil que l'on pense relativement objectif, mais enfin en tout cas qui permet aux personnes de s'exprimer. Si je vous recitais une anecdote, lors d'une formation, là, en travaillant avec des personnes avec trisomie 21, des parents et des professionnels, je leur disais que les personnes en situation de handicap avaient gagné le droit de décider de leur vie au cours des dernières années, et j'ai eu des manifestations très positives de la part des personnes avec trisomie 21 qui ont exprimé le fait qu'effectivement, elles aussi avaient fortement envie de choisir et de décider.
C'était un constat partagé, Romain Bastien, dans votre milieu professionnel aussi, de se rendre compte qu'on n'écoutait pas forcément les personnes concernées, ou en tout cas qu'on n'entendait peut-être qu'une partie de leurs revendications, ce qui nous arrangeait peut-être en tant que professionnel.
Oui, tout à fait. Mais surtout aussi, les personnes avec déficience intellectuelle ont des difficultés à exprimer leurs choix. Puisqu'en fait, choisir, ça peut paraître banal pour tout le monde, en fait, mais ça demande quand même certaines compétences qui doivent être apprises, mais qui doivent aussi être fournies par le milieu de vie de la personne. Et c'est vrai qu'on se rend compte que que parfois les milieux de vie ont tendance à prendre le relais des personnes avec déficience intellectuelle pour choisir à leur place. Donc voilà.
C'était principalement du coup un problème de communication, d'expression. Pourquoi ? Parce que souvent on entend dire que finalement les personnes sont, enfin en tout cas, on peut penser qu'elles sont pas capables. En vrai, elles sont capables. Après, c'est vraiment la façon dont on reçoit nous la communication, dont on, ça vient de là beaucoup le problème.
Et aussi nos croyances vis-à-vis de ces personnes. Est-ce qu'on croit qu'elles sont capables ? Une fois qu'on croit qu'elles en sont capables, alors là oui, effectivement, on va la laisser s'exprimer. C'est... Et donc, et là, on peut être véritablement surpris du fait que ces personnes sont vraiment capables de s'exprimer sur leur choix.
Voilà, c'était le premier frein au démarrage de dire non, ces personnes, elles sont capables, on va les écouter. Alors, comment ça s'est mis en place concrètement ? C'est-à-dire, Trisobie 21 France, vous êtes venu avec cette idée de dire on voudrait avoir des outils de recherche qui nous permettent de déterminer, enfin de laisser en tout cas les personnes déterminer leur choix. Concrètement, il s'est passé quoi ? On a été chercher des partenaires.
Alors... On est allé chercher des partenaires, effectivement, mais ces partenaires, on les connaît depuis longtemps et on travaille avec eux depuis longtemps. Avec l'Université de Mons, on travaille depuis plus de 15 ans maintenant sur l'autodétermination. On dispense des formations sur l'autodétermination aux parents, aux professionnels et aux personnes avec trisomie 21 ou déficiente intellectuelle, après avoir formé des formateurs à l'Université de Mons. C'est un partenariat qui est ancien et qui est maintenant bien ancré. On avait travaillé toujours avec l'Université de Mons sur un premier outil papier que l'on a mis en circulation, mais qui était pour des personnes lectrices, a priori, qui avaient besoin d'être accompagnées pour utiliser cet outil-là. Là, avec Internet, on a voulu donner un outil pour lequel on pense qu'elles ont besoin de moins d'aide, tout au moins, voire pas d'aide du tout. Ça, c'était franchir un cap. Mais on a eu ce travail avec Mons qui s'est terminé en 2011, d'ailleurs. En 2011, on a pu terminer ce travail et mettre cet outil en circulation.
Alors, quand vous dites mettre cet outil, parce que concrètement, pour l'auditeur, il s'agit de quoi ?
Sont délivrés. C'est un livret pour les aidants et un livret pour les personnes concernées qui aident à formuler le projet. Un livret qui est conçu comme les petits livrets dont vous êtes le héros et qui permet à la personne de cheminer dans ses choix et de faire des choix successifs, de se reporter à des aides éventuellement et qui normalement doit lui être une aide à sa décision.
Alors je vais insister encore sur ce petit livret, mais pour que nos auditeurs comprennent bien, on met ce petit livret dans les mains d'une personne déficiente intellectuelle ou trisomique. Qu'est-ce qu'elle y trouve dedans ? Des questions du quotidien, de la vie de tous les jours ? Comment ça va se passer avec Robin, peut-être ?
Voilà, donc en fait, c'est une formation vraiment destinée à la personne avec déficience intellectuelle qui peut faire le choix de faire cette expérience seule ou alors accompagnée par une personne qu'elle a choisie. Donc dans ce livret, on apprend vraiment à qu'est-ce qu'un choix, qu'est-ce qu'un bon choix ? Est-ce que tous les choix sont possibles ? Est-ce que quelqu'un doit choisir à notre place ? Est-ce qu'on peut choisir tout sans conséquences négatives ? Donc ça c'est constitué de plusieurs chapitres en fait, et en fonction des capacités, du niveau de connaissance de la personne, alors la personne peut choisir de démarrer son expérience avec la question est-ce que tous les choix sont possibles ? Au lieu de commencer par qu'est-ce qu'un choix concrètement ?
Parce qu'à vous entendre, du coup, ça reste très, très théorique, très presque philosophique. Qu'est-ce qu'un choix ? Qu'est-ce qu'un bon choix ? Est-ce qu'on rentre vraiment dans le concret déjà avec ce livret ?
Mais déjà, on pose des questions, par exemple, est-ce qu'on peut choisir ses parents ? Ça, c'est la première question. Donc, normalement, on dit non, on ne peut pas tout choisir. Est-ce qu'on peut choisir ses loisirs ? Là, oui, on commence à pouvoir choisir ses loisirs. Est-ce qu'on peut choisir son travail, etc. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi des questions sur ses propres expériences. Hein. Est-ce que tu as déjà choisi telle ou telle chose ? Donc, on part du passé à l'enfant, enfin de la plus petite enfance vers l'âge adulte en passant par l'adolescence.
Et alors, on s'adresse justement à un public qui a quel âge ? On va vraiment avoir un panel assez large de personnes concernées ou le livret concerne déjà un certain âge, l'adolescence ou les jeunes adultes ou...
Il est probable qu'il sera plus utilisé par des adultes ou des adolescents, mais il concerne aussi, à mon sens, des préadolescents. Et dans la mesure où c'est un outil, je parle de l'outil numérique, où c'est un outil qui est, à notre sens, entièrement accessible. Je pense qu'il peut concerner des enfants, quoi. Enfin, les enfants vont sur Internet, c'est quand même, ou se servent de l'ordinateur. J'allais pas dire de plus en plus jeune, mais bon, je pense que...
On peut le dire, je pense, oui, de plus en plus jeune. Et donc, les questions de base de dans ce livret, elles ont été déjà, à l'époque, pensées, avant cette recherche, en partenariat entre professionnels et Trisomie 21. Il y avait déjà, on les avait en tête, ces questions, avant de les mettre dans le livret, on savait à peu près quels étaient ces choix dont il fallait... parler avec les personnes concernées.
Oui, et puis il faut savoir que c'est une recherche-action, c'est pas une recherche fondamentale qui essaie de tirer des nouvelles connaissances. C'est vraiment, on propose quelque chose, une première version d'un outil, qu'on va proposer aux professionnels et aux personnes avec déficience intellectuelle, et en fonction des retours qu'elles nous ont donnés, suggérés, alors on va modifier en conséquence l'outil pour l'améliorer.
Ce qui va être encore plus facile, j'imagine, aujourd'hui, on passe au numérique, on va pouvoir réadapter aussi continuellement ces outils de choix, les questions, les questions qui se posent, et par rapport à des choix peut-être même plus actuels ou plus modernes.
Oui, et puis l'utilité de l'outil numérique, justement, c'est que on peut proposer des questions orales, en fait. Hein, donc, on peut retranscrire l'écrit à l'oral grâce à l'outil numérique. Ça, c'est aussi pour pallier les difficultés des personnes non lectrices.
Et alors justement, le projet de recherche en lui-même, celui qui a été initié avec l'aide de la FIRA, qu'est-ce qui a été la première étape par rapport à ce livret papier? On avait déjà à l'existant le livret papier, qu'est-ce qu'il a été urgent de faire juste après?
Le livret papier existait, il était en circulation, on s'est aperçu quand même qu'il était relativement, on avait fait quelque chose de relativement important en volume, hein, et donc on s'est aperçu qu'il fallait sans doute reprendre les choses, aller plus à l'essentiel dans le livret, ça c'était un point. Le deuxième point, c'est on travaillait, donc j'évoquais le travail avec Mons, mais on travaillait également avec l'Université de Bordeaux et l'INRIA. L'INRIA, c'est l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique. J'espère que je ne me trompe pas, mais bon, je renvoie les auditeurs à Internet pour aller voir ce que veut dire INRIA. Avec qui on travaillait déjà sur des outils numériques et la mise à disposition d'outils numériques pour des personnes avec trisomie 21, du type aide au déplacement, etc. Donc on savait qu'il y avait la compétence sur l'Université de Bordeaux en informatique et en possibilité d'adapter l'informatique pour des personnes déficientes intellectuelles. Et puis, il y avait aussi des neuropsychologues qui pouvaient nous aider à travailler sur le choix et les processus de choix.
L'importance de l'informatique dans beaucoup de projets qui se développent pour des personnes en situation de handicap, on y revient dans un instant avec nos invités.
Jusqu'à midi, recherche et partage sur Vivre FM, Blandine Lacour.
C'est ma vie, je la choisis, c'est le projet dont on parle aujourd'hui sur Vivre FM avec Jean-Paul Champeau et Robin Bastien. Jean-Paul qui est directeur de Trisomie 21 et Robin Bastien qui est chercheur à l'université de Mons en Belgique. Voilà, c'est dit. On parlait à l'instant de ce projet de recherche, des outils numériques notamment qui apportent énormément d'aide à la recherche en général, mais particulièrement à la recherche qui concerne des personnes en situation de handicap. On est passé ici d'un livret papier à une recherche très axée sur les possibilités numériques qui ont apporté énormément. Ça a apporté justement, qu'est-ce que ça a apporté réellement en dehors de l'aspect simplifié de pouvoir améliorer, on va dire, un livret c'est un peu figé. Là c'est vrai que l'outil numérique apporte des possibilités d'évolution qui sont peut-être un peu plus simples, mais ça va bien au-delà de ça.
L'outil numérique, il amène d'une part une certaine objectivité. L'ordinateur, il réagit pas. Hein, il est pas. On peut effacer ce qu'on a fait, on peut revenir, etc. Bon, ça c'est tout ce qu'on peut faire nous-mêmes sur un traitement de texte quand on efface, quand on copie, quand on colle, etc. Donc cet outil, il amène la possibilité de se tromper, de revenir en arrière, etc. Ça c'est la première chose. Mais il amène surtout l'accessibilité. Chaque fois que la personne va cliquer sur le petit bonhomme qui amène de l'aide, par exemple, le petit bonhomme, il va répéter autant de fois que nécessaire. Les dents à côté, à un moment, il va peut-être en avoir marre, quoi. Alors que là, on va avoir effectivement cette possibilité de répétition, de répétitivité. On va avoir également une accessibilité. Chaque fois qu'on va cliquer sur un petit haut-parleur, eh bien, la personne va voir ce qui est écrit. On a essayé d'écrire en facile à lire et à comprendre, donc normalement ça devrait être compris, et ça autant de fois qu'on le veut. Donc l'outil, cet outil-là, il amène la possibilité, comme je disais, la possibilité de se tromper, la possibilité de recommencer autant de fois que l'on veut, et puis une certaine objectivité dans les réponses qui sont fournies.
Alors qu'est-ce qu'on y trouve concrètement, Robin? Je reviens là-dessus, mais j'ai envie que nos auditeurs aient une vision claire de dire voilà. Quel outil? Comme ils y vont, si moi je suis parent, voilà, d'un déficient intellectuel ou d'un enfant trisomique, qu'est-ce que j'y trouve moi là-dessus?
Donc déjà c'est un site web dans lequel on a un accès privé. Il faut s'inscrire, il faut mettre un mot de passe, mais
on va le donner tout de suite le site web parce qu'on en parle, mais
ah. il sera en ligne sur le site de Trisomie 21 France, www.trisomie21-france.org.
Voilà. Donc il n'est pas encore en ligne.
Ah, non, il sera en ligne au 30 juin, il sera en ligne, effectivement.
D'accord, donc très prochainement.
Et on enverra un communiqué à Vivre FM qui ne manquera pas d'en parler, je pense.
D'accord, bon, on mettra déjà le lien. Alors, donc on est parents, on va aller sur ce site, on va essayer d'avoir accès à cet outil. Et qu'est-ce qu'on va y trouver? Qu'est-ce que ça va nous apporter concrètement?
Déjà une vidéo de présentation de l'outil numérique, donc qui est présentée par un personnage qui a été créé spécialement pour l'occasion, et qui va montrer à la personne qu'elle peut voyager dans plusieurs parties de cet outil numérique. Donc c'est un peu comme l'outil papier, en fait. On a plusieurs parties, par exemple choisir c'est quoi, encore une fois, et alors progressivement on pose des questions à la personne et on amène aussi des exemples concrets avec des images, avec des vidéos. Et la personne peut répondre par oui, par non, par pas souvent, ou alors proposer de l'écrit, quoi.
Parce que tout à l'heure, Jean-Paul disait, on peut se tromper. Mais finalement, est-ce qu'on se trompe? Est-ce que c'est pas qu'est-ce que c'est se tromper? On fait les choix qu'on fait, même là sur cet outil numérique, si on est une personne déficiente. À quel moment on se trompe? Moi, j'ai du mal à saisir en quoi on peut se tromper avec cet outil.
On peut revenir en arrière sur ses choix dans ce cas-là, hein, ce qui est pas forcément le cas dans la vie.
Voilà. D'accord, mais c'est pas forcément
en termes d'erreur, effectivement, en termes de bien ou de mal. On peut effectivement, mais on peut revenir en arrière, c'est-à-dire on a le droit de se dire bon, ben là finalement c'est pas ce que je voulais choisir, donc je vais revenir. Je voulais rajouter quelque chose aussi, c'est un outil qui est personnalisable, c'est-à-dire que effectivement il y a un certain nombre d'images, une banque d'images qui permet d'illustrer les choix qui sont faits, mais on peut aussi aller rechercher ses propres images sur son ordinateur pour personnaliser le chemin, le parcours des choix, quoi.
Mais alors j'essaie de vendre le truc à nos auditeurs. Mais qu'est-ce qu'elle va y trouver? Et la personne qui est en situation de handicap, et le proche, comment les convaincre? Ça va leur amener quoi concrètement cet outil? Alors on va expliquer à l'enfant, qu'est-ce que c'est qu'un choix? C'est ça l'idée ou ça va quand même beaucoup plus loin?
Ouais, ça va, normalement, on est sur un outil qui doit permettre, non pas d'éduquer, le mot est un peu fort, vous allez me reprendre comme le mot trompé, mais effectivement, il va permettre d'aider la personne à choisir et à décider. C'est un outil qui permet d'éduquer, oui, la décision, quoi. Un outil d'aide à la prise de décision. Donc c'est pas si facile que ça de décider, hein, pour une personne avec trisomie 21 encore moins sans doute, mais pour tout un chacun c'est pas si facile que ça. Donc c'est un outil qui va permettre de décider et de prendre en compte la plupart des paramètres de la décision.
Moi, j'aime bien ce terme, au contraire, éduquer, je me dis, c'est un objectif fort et important. Mais c'est vrai que ça peut justement surprendre, se dire, c'est un outil numérique qui va aider quelqu'un à décider, à faire des choix après, beaucoup plus largement d'ailleurs que sur l'outil. C'est vraiment ça, on les sensibilise finalement à se dire, tu peux faire des choix, tu peux faire les choix que tu veux, tu peux, là je reprends votre expression, te tromper, décider et revenir et faire un choix différent. C'est vraiment la philosophie et l'objet de cette recherche.
Oui, et puis il faut savoir que la première recherche est en fait partie d'un besoin, puisqu'on part de la loi du 11 février 2005, hein, dans laquelle on retrouve clairement la notion de projet de vie que la personne doit pouvoir proposer aux maisons départementales pour personnes handicapées. Et donc, justement, l'idée, c'était de proposer un outil d'aide à la formulation de choix pour qu'au final, elle puisse proposer des choses et que la maison, les maisons départementales puissent faire concrètement.
Et alors, comment on fait justement pour avoir, pour être sûr qu'on propose des options qui sont réellement celles dont ont besoin ces personnes-là? Comment vous avez articulé le projet de recherche pour inclure les personnes déficientes, les professionnels, les proches, et arriver à un résultat qui soit utile au plus grand nombre? Il y a eu, j'imagine, des groupes tests, des entretiens avec ces personnes. Comment ça s'est passé?
Elles ont été associées sur les. Le travail a duré 2 ans et 2 ans un peu plus, maintenant 2 ans et demi. Et elles ont été associées à toutes les phases. Bon, sauf à la phase de recherche bibliographique. Mais pour tout le reste, elles ont été associées. Enfin, les personnes avec trisomie 21, les parents peut-être un peu moins, mais les personnes avec trisomie 21 ont été associées à toutes les phases de la réalisation du site. Ça, c'est un fait. À la réalisation de l'outil papier également, elle l'avait été précédemment aussi. Elles ont été aussi, on a travaillé beaucoup. Là, c'était la partie recherche universitaire, si on peut dire aussi, sur le processus de décision. Donc là, il y a eu un travail où on a fait des tests neuropsychologie sur les processus de décision chez les personnes avec trisomie 21. Donc là, bien entendu, elles ont participé. Donc on a eu une participation à chaque fois et le site a été élaboré selon une démarche de design participatif, c'est-à-dire qu'effectivement elles ont été associées, y compris sur le choix des images qui sont sur le site initial, sur le site qui sera proposé en ligne. Elles ont été associées au choix des images. Les images qui sont là, aussi surprenantes qu'elles soient, c'est parfois elles qui ont choisi. Enfin, c'est toujours elles qui ont choisi ces images-là.
Est-ce qu'on peut donner des exemples concrets? Parce que c'est pareil, on dit aux gens, oui, on va les faire plancher sur le processus de décision avec des neuropsies. Ça peut rester flou. Concrètement, on leur demande des quoi, ces personnes? Alors, qu'est-ce qui est important pour toi? À quel moment de ta vie tu as l'impression de ne pas choisir? Comment on les abordait? Comment on les sensibilisait à ça? Et concrètement, avec quel type de questions?
Des volontaires.
Oui. Oui, c'était volontaire, bien sûr. Hein, c'était pas.
Oui, non, j'imagine qu'on les a. Ils avaient envie à la base de participer.
Des personnes volontaires qui ont participé. Bon, il y a eu d'une part une partie de tests, hein, de tests psychométriques. Enfin, je sais pas ce qu'on les appelait, tests psychométriques.
Neuropsychologiques.
Oui, des tests neuropsychologiques sur le processus de décision. On s'est aperçu d'ailleurs à cette occasion qu'il n'en existait pas beaucoup pour tous les publics, hein, de tests sur la décision. Donc,
concrètement, c'est quoi? Parce que moi, je suis sûr qu'il y a une partie des auditeurs qui va nous écouter, qui va dire « Ok, ils font des tests neuropsychologiques sur le processus de décision, ça va pas être clair pour tout le monde. »
Alors, il y a plusieurs tests, en fait. Il n'y a pas uniquement sur le processus de décision, mais il y a par exemple des tests en mémoire à court terme. Donc, on sait que les personnes avec déficience intellectuelle peuvent moins mémoriser d'informations en même temps, simultanément, comparées à la population tout venante. Donc, à partir de ces résultats, on peut dire que, voilà, par exemple, sur le site internet, il ne faudra pas afficher plus de 3 informations en même temps. Donc voilà, comment on peut adapter en fonction des résultats issus de la neuropsychologie. Et maintenant, pour les tests de processus de choix, ben, par exemple, c'était un jeu qui était spécialement adapté pour l'occasion, parce que ça n'existe pas pour adapter pour les personnes avec déficience intellectuelle, où on présentait un jeu de cartes, 2 paquets de cartes, et en fait il y a une stratégie à avoir pour pouvoir bénéficier d'un score élevé. Par exemple, si je retire une carte du tas à droite, ben là j'ai par exemple 50 €. Je retire une carte du paquet gauche, j'ai 10 euros. Donc, je peux dire que je peux décider pour maximiser mes gains qu'il faut préférentiellement prendre les cartes du paquet droit. Maintenant, on s'est rendu compte avec les résultats que les personnes, en fait, choisissaient au hasard les paquets de cartes. Donc, le niveau du processus de décision, là, il y avait justement un travail à faire et justement, l'outil peut permettre d'améliorer les décisions à prendre.
Alors ça, c'est tout un travail qui a été fait pour savoir comment construire cet outil pour qu'il
soit
efficace.
C'est l'équipe de Bordeaux qui a fait ça, oui.
Voilà, pour qu'il soit adapté. Et après, sur vraiment concrètement, les questions abordées dans l'outil. Là, c'est pareil, on a interrogé les personnes concernées. Comment on a fait pour savoir finalement quel type de questions ou alors on s'est basé sur la vie quotidienne peut-être de chacun d'entre vous, du coup, de monsieur tout le monde.
On s'est basé là sur la théorie de l'autodétermination pour classer les questions et le parcours de choix, quoi. Donc je pourrais en parler peut-être tout à l'heure.
C'est-à-dire que c'est les questions de la vie quotidienne, qu'est-ce qu'on a, à quoi on fait référence quand on dit les questions sont relatives à l'autodétermination. C'est choisir sa vie, son habitat,
ses loisirs, oui.
Ses loisirs, voilà. Donc
ses amis.
C'est la vie quotidienne, finalement, de n'importe quelle personne.
Dire quelles sont les valeurs les plus importantes pour soi. Les valeurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on aime le plus, qu'est-ce qu'on aime, est-ce qu'on aime être seul, est-ce qu'on aime commander, est-ce que, voilà. D'une part, effectivement, le lieu, choisir effectivement le logement, les loisirs, etc. Mais en fonction de quoi on choisit, on choisit tous en fonction aussi de valeurs que l'on porte plus ou moins.
Et là, c'est pareil, c'est des personnes test qui vous ont apporté aussi ces envies d'avoir ces questions-là qui soient abordées.
Bah, à chaque phase, elles ont été impliquées. Hein. Maintenant, il y a par exemple... Le cadre théorique, c'est vraiment celui de l'autodétermination. Et il y a plusieurs composantes dans l'autodétermination, notamment l'empowerment, donc c'est la capacité à sentir qu'on a une influence sur son environnement. Mais il y a aussi l'autorégulation qui est en fait un synonyme de résolution de problèmes. Dans un problème, par exemple, il y a un état initial et un état final, et entre les deux, il y a des étapes. Donc, par exemple, dans une partie du livrable, il y a une partie où on apprend à la personne à mettre en place une activité, à organiser une activité. Par exemple, si la personne veut vivre en appartement, ben, qu'est-ce qu'elle doit faire maintenant? Donc là, il y a aussi un processus d'aide à la résolution de problèmes, entre guillemets. Évidemment, c'est pas un problème, hein. Mais voilà, par exemple, je dois prendre des informations, quels sont les appartements qui sont disponibles, je dois m'inscrire à tel endroit, etc. Voilà, ou partir en voyage. Je dois réfléchir où je veux partir, je dois acheter un billet d'avion, je dois acheter un ticket d'hôtel, enfin, une chambre d'hôtel, etc., quoi. Donc, voilà. Et tout ça est parti également d'une expérience concrète avec, qui est montrée dans l'outil, quoi.
On y revient avec vous tout de suite sur Vivre FM.
Jusqu'à midi, recherche et partage sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Et toujours avec Jean-Paul Champeau, directeur de Trisomie 21, et Robin Bastien, chercheur à l'Université de Mons, au service d'orthopédagogie clinique, que je le dise bien. C'est ma vie, je l'ai choisi, on l'a vu, c'est un projet qui a vu aboutir un outil d'aide au choix, d'aide à l'autodétermination. C'est compliqué aujourd'hui de se dire ça y est, mission accomplie, ça a marché. On sent que ça va être utile, on sent que ça va apporter de l'aide. Mais aujourd'hui, et pour vous Jean-Paul, on attend des retours, on a envie de voir comment va vivre cet outil, on a envie de que les gens vous disent ah bah oui, grâce à cet outil, on a aidé une personne à mieux choisir, à mieux faire des choix de vie.
Bon, on a envie d'avoir un retour sur l'outil. Alors, on espère que les retours sont positifs, mais s'ils sont négatifs, faut pas hésiter à les faire non plus. Hein. On a cherché, on a testé. Des personnes ont trouvé que c'est des personnes avec trisomie 21. On trouvait que c'était intéressant, que l'outil était intéressant. Maintenant, on attend les retours du public plus large, puisqu'on le met en ligne. C'est un outil mondial maintenant, puisqu'il sera sur Internet. On attend des retours. N'hésitez pas à nous faire des retours dès qu'il sera en ligne, donc à partir du 30 juin, sur www.trisomie21-france.org.
Voilà, on mettra les liens hein, sur le site. Et au-delà des retours, donc les personnes pourront s'inscrire, faire des retours sur le site et vous dire ah bah c'est bien, c'est ou c'est moins bien s'il y a critique. Mais c'est surtout que ce projet-là, vous me dites en antenne, fait partie d'un projet plus global et que si là on a développé et terminé entre guillemets un outil, ça rentre dans le cadre de recherche et d'amélioration bien plus large, bien au-delà de ce simple outil.
Alors, d'une part, sur les 6 prochains mois, déjà l'université de Bordeaux va observer un peu ce qui se observer l'utilisation du site, travaillera sur les retours des utilisateurs. Ça, c'est la première chose. Et puis, effectivement, ce projet n'est pas un projet. C'est un projet qui s'inscrit dans la prise de parole des personnes avec trisomie 21. On a travaillé, on a mis d'autres outils en ligne. On a un site qui s'appelle Santé Très Facile. Tout se tient effectivement et on peut le trouver d'abord en ligne sur le site de Trisomie 21 France, mais on peut le trouver aussi sur Internet directement. Et cet outil a pour objectif de permettre à des personnes avec trisomie 21, déficientes intellectuelles, de gérer elles-mêmes leur santé, leurs rendez-vous médicaux, etc., etc. Je vous invite à le consulter. Lui aussi est pensé comme étant accessible aux non-lecteurs. Il est aussi cohérent avec notre site. On a utilisé à peu près le même design. On a utilisé aussi les mêmes pictogrammes. C'est important parce que les pictogrammes, on en trouve partout. On a utilisé les mêmes pictogrammes de manière à rendre les choses cohérentes. On travaille aussi sur l'autoreprésentation pour que les personnes sachent qu'elles peuvent s'exprimer en leur nom propre, sachent qu'elles peuvent faire porter leur parole par quelqu'un d'autre et sachent aussi qu'elles peuvent porter la parole d'autres personnes. Donc c'est un travail, c'est là que l'on a mené sur les deux dernières années. Et c'est un travail là uniquement un travail de formation, mais on sent que les choses sont en train de prendre et que des personnes avec trisomie 21 prennent la parole et maintenant effectivement ont envie de faire leur choix. Pour certaines le font, pour d'autres ont besoin encore de travailler sur ce choix et on espère que cet outil leur permettra de travailler sur le choix et sur la décision.
Et puis d'ailleurs, on le disait hein, déjà dans cette émission, mais bien au-delà des personnes trisomiques ou des personnes déficientes intellectuelles, ça peut intéresser un grand nombre de personnes touchées par des déficiences plus ou moins légères, plus ou moins graves. Enfin, c'est un outil qui va bien au-delà de ce public.
Ou tout simplement une personne qui a envie de voir si comment est-ce qu'on décide, qui a envie d'analyser un peu le processus de la décision ou qui a envie de décider. Enfin, ça peut intéresser n'importe. J'espère que ça intéressera le plus de personnes possible.
Voilà. Alors, on le voit maintenant, l'outil va vivre sa vie. J'espère que vous aurez des nombreux retours. Pour vous, Robin, en tant que professionnel, est-ce que ça a aussi finalement changé les choses, changé la façon de voir ou de travailler avec ce public-là, mais aussi, j'allais dire, plus largement dans les pratiques auprès d'autres publics? C'est un outil qui vous a aussi apporté, enfin cette recherche, d'ailleurs pas l'outil, mais la recherche elle-même, elle permet aussi d'améliorer les choses pour d'autres publics.
Oui, dans les pratiques professionnelles, à mon avis, on va trouver plein de choses à faire. Hein. Je pense par exemple aux services d'accompagnement, même en Belgique, hein, où on propose à des personnes de vivre en autonomie. On peut, à partir de l'outil qui est proposé en numérique, voir quels sont vraiment ses souhaits, ses choix, dans où elle voudrait vivre plus tard, par exemple. Où je vois aussi dans un contexte scolaire, on peut proposer également ces différents outils à des élèves qui ont une déficience intellectuelle pour qu'ils apprennent justement à faire des choix. Et alors, au niveau de la recherche, ça va se poursuivre évidemment avec notamment à l'université, avec les étudiants, on va faire des travaux de fin d'études, hein, évidemment. Et donc, on peut voir par exemple si cet outil d'aide à la formulation de choix peut avoir un impact sur l'autodétermination en général de ces personnes, mais dans d'autres activités, dans tous les domaines de la vie quotidienne aussi, par exemple. On sait que en améliorant les capacités d'autodétermination des personnes, on améliore leur qualité de vie. On peut voir si justement l'aide de nos outils permettent d'améliorer la qualité de vie des personnes, mais aussi d'améliorer leur estime de soi, leur affirmation de soi et proposer des personnes revendicatrices auprès de leurs parents, auprès des personnes qui les accompagnent, par exemple.
Là, vous dites, on va voir, mais comment on va mesurer, justement, aujourd'hui, comment on va finalement réussir à affiner sa position en tant que chercheur grâce à cet outil et, vous allez continuer à faire d'autres formes de recherche ou d'analyse des résultats, des retours aussi en Belgique?
Oui, c'est plutôt des recherches d'analyse. On peut, par exemple, évaluer les capacités d'autodétermination avant et après l'utilisation de ces outils numériques et de ces outils papier, voir s'il y a une amélioration de l'estime de soi, une amélioration de la qualité de vie. Tout ça se mesure très bien avec des instruments psychométriques, je vais dire.
Ça, c'est une chose, je me permets de compléter, mais l'outil que l'on crée là, ou ce que j'évoquais tout à l'heure, s'inscrivent aussi dans un mouvement de général, hein, d'autoreprésentation des personnes. Les personnes, Je rappelle la charte de Madrid en 2002, rien pour nous sans nous, quoi. Donc effectivement, les personnes veulent s'exprimer et notre ambition est de donner accès à cette expression à tous, y compris ceux qui sont non-lecteurs ou ceux qui sont porteurs de trisomie 21 ou déficience intellectuelle.
Oui, c'est-à-dire qu'on prend tout aussi en compte, c'est vrai que j'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais la parole aussi des proches, des aidants qui sont aussi experts dans ce domaine et savent aussi quels sont les besoins.
On a pris en compte la parole des familles, bien sûr. On a surtout pris en compte la parole des personnes avec trisomie 21.
Comment on fait pour partager techniquement, une fois qu'on a mis cet outil en ligne, qu'on le lit, nous, sur l'antenne de Vivre FM, comment on fait pour toucher un public le plus large possible et à l'international aussi? Est-ce qu'il y a une version, d'ailleurs, anglaise du projet ou c'est un produit entièrement français aujourd'hui, en langue française?
C'est une question qui nous a déjà été posée. Pour l'instant, il est en langue française uniquement. Voilà, ça serait une deuxième étape et je ne sais pas si c'est nous qui l'amènerions, d'ailleurs, mais c'est une deuxième étape, effectivement. Enfin, en revanche, on est en contact avec des associations européennes, donc, puisqu'on est adhérent d'ETSA, qui est l'association européenne Trisomie 21. On va en parler de cet outil-là, donc peut-être, mais dans l'immédiat, ce n'est pas le cas.
Et nous, en tant que chercheurs, évidemment, on va faire des publications dans des revues scientifiques nationales et internationales, francophones et en anglophones. Et par ailleurs, hier, vendredi, on a une journée d'études à Mons, où plusieurs professionnels, plusieurs parents et plusieurs personnes avec déficience intellectuelle ont pu participer. Et donc, évidemment, on a diffusé l'information auprès du public.
Voilà, en tout cas, ça commence. Voilà. Déjà, sur Vivre FM, on fait un appel. S'il y a des gens qui veulent vous aider à traduire, à proposer une version anglaise ou dans d'autres langues, d'ailleurs, je dis anglais, mais ça va bien au-delà, eh bien, tant mieux. Alors, en tout cas, toute l'information sur cet outil et surtout pour essayer cet outil, c'est à partir du 30 juin. Je le redis, ça va vous faire plaisir, Jean-Paul, trisomie21-france.org. C'est là qu'on trouve l'outil, qu'on peut s'inscrire et puis tout sera expliqué. Ouais. Quant à cette émission, elle sera en podcast. Donc, vous pourrez l'écouter, la télécharger pendant encore très longtemps aussi. Vous pouvez aussi trouver toutes les informations sur le projet de recherche dont on vient parler sur le site de la FIRA, fira.org. Et oui, je vous en prie, Jean-Paul.
Non, je voulais simplement dire, avant de terminer, de conclure, tout le plaisir qu'on avait eu de travailler avec des chercheurs pragmatiques et respectueux des personnes et de leurs familles.
Plaisir partagé, j'imagine, Robin.
Également, oui.
C'est sûr. Et ben, c'est parfait. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Et puis, on espère reparler de C'est ma vie, je l'ai choisi, de ce projet, parce qu'on aura eu des retours, parce qu'on aura eu des améliorations. En tout cas, les portes, l'antenne de Vivre FM, vous êtes ouvertes pour en parler à nouveau. Merci à tous. Bon appétit pour ceux qui vont déjeuner. Bon week-end à l'écoute de Vivre FM.